6 hommes interpellés hier à Digne-les-Bains lors de l'opération Place Nette menée par près de 100 policiers, en plus d'un trafic de stupéfiants. 5 sont soupçonnés d'extorsion auprès de commerçants, violences physiques, menaces sur les proches, séquestration. Ils faisaient régner un climat de terreur depuis un an. Discours de politique générale de François Bayrou. Le Premier ministre reçoit le soutien du sénateur alpin Jean-Michel Arnaud. La menace de censure des députés de gauche dans les Hautes-Alpes et la satisfaction de Sophie Vaginéricourt, parlementaire basalpine. Élections municipales, certains maires renoncent à 2026. C'est le cas à Castellar-Mélan ou encore à Volx. Élections, mais cette fois au sein de la Chambre d'agriculture des Alpes-d'Haute-Provence. 3 candidats, 3 listes, leurs propositions dans le journal. 3, c'est le nombre d'équipements également qu'il faut quand on sort en montagne. Détecteurs de victimes d'avalanches, sondes et pelles. Encore faut-il savoir s'en servir. Des formations ont lieu dans le Val d'Alos. En hockey sur glace, c'est une victoire pour les deux clubs haut-alpins, les Rapaces de Gap et les Diables Rouges de Briançon qui affrontaient hier soir Amiens et Rouen. Digne-les-Bains s'est réveillé encore remué après l'opération Place Nette réalisée ce mardi. Ce sont près de 100 policiers qui ont été déployés, dont la CRS 81, une unité spécialisée dans les interventions d'urgence en milieu urbain. Des chiens spécialisés dans les stupéfiants et les armes ont aussi été appelés en renfort, tout comme le RAID venu de Nice, mais aussi une quarantaine d'effectifs locaux. L'opération a été mûrement préparée par la police, selon le préfet Marc Chapuis au micro Alpe 1. Un vaste coup de filet encore, selon lui, avec à la clé l'interpellation de 6 hommes pour trafic de stupéfiants et extorsion de fonds. Ils auraient fait régner en centre-ville auprès des commerçants un climat de terreur avec des rackets, des violences ou encore des faits de séquestration. Nino Dalbera avec Michel Bonnefoy.
Depuis plusieurs mois, voire plus d'un an, c'est un climat d'insécurité, de rackets organisés, comme l'expliquait la maire de Digne-les-Bains, Patricia Granet-Brunello, lors de la conférence de presse hier après-midi. Des faits qui ont troublé le centre-ville et impacté gravement la vie économique, insiste le procureur Antoine Pesme. C'est à l'automne dernier que des investigations débutent pour trafic de stupéfiants dans le quartier Pied-de-Ville à Digne-les-Bains. Mais l'enquête des forces de l'ordre prend alors une autre tournure. Des gérants de bars et de restaurants sont victimes d'extorsion, mais aucun n'a déposé plainte. La crainte de représailles, probablement. Une information judiciaire est ouverte en novembre. 5 établissements sont victimes. Aujourd'hui, 4 ont déposé plainte. Les faits remonteraient au début de l'année 2024, voire même avant, avec un préjudice lourd, des sommes rackettées à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, des dégradations, des consommations non payées, un chiffre d'affaires qui a en plus chuté, la clientèle se détournant de ces établissements après y avoir été expulsée. Le parquet parle d'un mode opératoire d'une extrême violence, violence physique, intimidation, parfois sur des membres de la famille et des faits de séquestration pour au moins un gérant. Au total, ce sont donc 6 Dinois, dont un commerçant entre 25 et 65 ans, qui ont été interpellés hier. 4 sont bien connus des services de la justice, poursuit Antoine Pesme.
4 personnes ont été interpellées dans le cadre des deux dossiers, c'est-à-dire à la fois pour des faits de trafic de stupéfiants et pour les faits d'extorsion. Une autre personne a été interpellée pour des faits d'extorsion et non justification de ressources, et la dernière a été interpellée uniquement dans le dossier de trafic de stupéfiants. Les saisies, pour l'instant, c'est essentiellement des sommes d'argent, il y a plus de 21 000 euros qui ont été saisies en espèces, en liquide, ainsi qu'une voiture de luxe. Et puis une arme. Donc on en est encore au stade des investigations qui vont se poursuivre pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le juge d'instruction ait suffisamment de preuves contre tout le monde ou pas, et décide, et puis soit en tout cas soit en capacité de statuer sur le devenir de ces personnes. Soit il y aura un non-lieu s'il n'y a pas de charge suffisante, soit elles seront renvoyées devant le tribunal s'il y a...
D'autres gérants seraient aussi victimes. Le procureur les encourage à se signaler auprès du juge d'instruction. Les auditions ont commencé. L'opération Place Nette va encore durer plusieurs jours. Vous verrez du bleu dans les rues, lance le préfet basalpin Marc Chapuis, car il s'agit pour lui de lutter contre les trafics, démanteler les réseaux et sécuriser l'espace public.
Et retrouvez le dossier en détail sur alpe1.com. Politique. François Bayrou s'est donc exprimé hier devant le Parlement, un discours de politique générale du Premier ministre qui a fait réagir le monde politique local. Jean-Michel Arnaud, le sénateur haut-alpin, se réjouit des ajustements que compte mener le gouvernement sur la réforme des retraites. Le soutien de François Bayrou a été annoncé également sur la fin du transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement des communes aux intercommunalités. Quant aux économies demandées, elles ne seraient plus de 5, mais de 2 milliards 200 millions d'euros pour les collectivités pour 2025. Enfin, le sénateur des Hautes-Alpes voit d'un bon œil l'appel du Premier ministre à débureaucratiser la France. Le Parti Socialiste, groupe auquel appartiennent les députés OALPIN, Marie-Josée Allemand et Valérie Rossi, annonçait hier soir censurer le gouvernement, sauf s'il obtient une réponse claire quant aux retraites. Sophie Vaginet-Ricourt, députée de l'Union des droites dans les Alpes-de-Haute-Provence, revient sur la motion de censure qui a permis, selon elle, que la France se rende compte que la dette, la mauvaise gestion du budget de l'État et l'immigration massive pèsent. François Bayrou l'a même reconnu. Fin de citation. Dans le calendrier politique, c'est aussi 2026 avec les municipales et les choses se mettent en place à Gap. Ambition pour Gap, groupe d'opposition majeure, annonce une réunion publique de présentation des travaux. Elle est prévue le 30 janvier à 19h au Tempo. À Gap, le mouvement compte présenter son projet. Charlotte Kuenz, membre, indique que la porte est toujours ouverte pour négocier avec Élie Cordier, tête de liste d'Union pour Gap, mais qu'il faut d'abord travailler le fond. En 2026, certains maires en poste ne se représenteront pas, certaines annonces sont tombées pendant les vœux. Chantal Bardin, la maire de Castellar-Mélan, village de quelques dizaines d'habitants des Alpes-de-Haute-Provence, a fait cette annonce dimanche, annonce rapportée par nos confrères de la Provence. Même chose pour le maire de Volx, Jérôme Dubois. L'édile a annoncé qu'il ne se représenterait pas après 4 mandats et près de 20 ans à la tête de la commune basalpine. Et Camille Galtier, le maire de Manosque et président de DLV Agglo, rend hommage à son implication, je cite, « sans faille pour sa commune ». À partir d'aujourd'hui, les 2 200 000 électeurs aux chambres d'agriculture vont pouvoir voter. Hier, nous avons évoqué les Hautes-Alpes. Place aujourd'hui aux Alpes de Haute-Provence avec les 3 candidats. Éleveuse de chèvres à Fort-Calquier, Lorraine Prunet, la tête de liste de la Confédération paysanne, souhaite aller plus loin dans la transition écologique, la valorisation des produits locaux, mais aussi et surtout sur l'installation, transmission et l'accès au foncier agricole.
On voit qu'il y a toujours une demande pour de l'installation, que le fait de libérer du foncier, c'est pas évident. On est à la veille d'un gros départ à la retraite de quasiment une génération agricole, une grosse même génération agricole. Et il faut pouvoir accompagner ce mouvement pour que tous ces cédants, là, toutes ces personnes qui vont partir à la retraite, soient en mesure, d'une part, de lâcher leurs terres, de ne pas les conserver, et qu'elles servent à l'installation de plus jeunes pour assurer ce renouvellement.
C'est dans une situation de cumul des casquettes que se présente Laurent Despied, à la fois président de la FRSEA PACA et tête de liste de la FDSEA pour les Alpes-de-Haute-Provence. Celui qui était jusqu'alors secrétaire adjoint à la Chambre d'agriculture réclame un plan Marshall de l'eau sur la prochaine mandature.
Nous avons quand même une eau qui part du 0,5 mais qui finit jusqu'à Marseille. Donc l'idée, je pense, c'est qu'il faudrait qu'on identifie clairement les besoins, qu'on puisse déterminer une vraie stratégie, un plan Marshall de l'eau dans lequel on investisse, on modernise les réseaux, on accompagne les agriculteurs pour avoir des modernisations des outils en termes d'économie d'eau.
Pour Mathieu Pins, tête de liste de la coordination rurale dans les Alpes-de-Haute-Provence, il faut que les normes soient connectées au réel. Il dénonce la loi Abeille qui aménage les horaires de traitement des cultures.
Elle ne respecte pas le cycle naturel de l'abeille. Il y a des horaires qui sont fermés, on va dire, verrouillés par la loi, où le risque est minime. Et il y a des horaires à partir duquel on pourrait éventuellement intervenir si on respectait la loi. Mais le bon sens l'interdit parce que c'est une période où on a peut-être 50, 60, 70% des abeilles qui sont encore en train de travailler dans les cultures, dans les vergers, etc.
Et les différentes têtes de liste appellent bien évidemment les agriculteurs à voter. C'est possible depuis aujourd'hui par voie électronique ou par voie postale jusqu'au 31 janvier prochain. Direction les montagnes, vigilance jaune avalanche. Aujourd'hui, le risque est de niveau 3 sur 5 pour le Champsaur, le Queyras, le Tabor, le Pelvoux, de niveau 2 pour l'Embrunet-Parpaillon, l'Ubaye, le Haut-Var et le Haut-Verdon. Si lors d'une sortie en montagne hors piste, le triptyque détecteur de victimes d'avalanche, sonde et pelle est indispensable, eh bien, il faut aussi savoir s'en servir. Les professionnels constatent en effet trop souvent des pratiquants qui s'équipent avec du matériel mais qui ne savent pas toujours bien l'utiliser. Du matériel qui est en plus parfois de mauvaise qualité. Les 24 janvier et 8 février prochains, 2 journées de formation au sauvetage avalanche sont proposées au Val d'Allos en partenariat avec l'ANENA, des journées à destination du grand public. Il faut savoir qu'une personne ensevelie a 90% de chances de survie si elle est secourue dans les 18 minutes. La courbe chute drastiquement passé ce délai. Un temps précieux qu'il faut donc savoir utiliser tout en gérant le stress, d'où ces formations, comme l'explique Romain Luigi, les professionnels de la montagne et formateurs au sein de l'ANENA.
qu'on va sur le terrain et on met des situations en place. On simule un groupe qui a un accident, qui déclenche une avalanche. Et le deuxième groupe, lui, doit faire le sauvetage. En une fraction de seconde, les pratiquants se retrouvent secouristes et doivent faire face à la situation. Il faut effectivement savoir se servir du matériel, mais il faut savoir s'organiser si jamais ça se produit. Et pour s'organiser, on a des moyens mémotechniques qu'on met en place. Hein. Donc nous, on a un moyen mémotechnique, c'est l'Aliros. Le A, c'est alerter. Le L, c'est avoir une notion de leader. Le I, c'est prendre des informations sur l'avalanche. Le R, c'est gérer tous les problèmes de réception et d'interférence qu'il peut y avoir avec des DDA. Et après, c'est le sauvetage et le secours.
Et attention, les places sont limitées. Il faut donc s'inscrire sur le site de l'ANENA. Le lien est à retrouver sur alpe1.com. En hockey sur glace, soirée de victoire en Ligue Magnus pour les clubs haut-alpins. Fait assez rare cette saison, les Rapaces et les Diables Rouges sont sortis vainqueurs lors de la même journée de leurs confrontations respectives contre Amiens et Rouen. Des victoires acquises en prolongation à chaque fois, grâce à un but de Kyle Holbauer. Victoire 3-2 pour les Gapensais qui ont pris leur revanche à domicile après leur défaite dimanche 6-0 contre les Gothiques d'Amiens. Quant aux Diables Rouges de Briançon, après 3 défaites cette saison contre les Dragons de Rouen, ils ont remporté la donne 4-3 au sein de la patinoire René Froger. Benjamin Bérard a libéré les siens face aux champions de France en titre. La prochaine journée de Ligue Magnus, ce sera à l'extérieur. Vendredi, Briançon, 12e, jouera contre Cergy, 8e, Gap, 10e, contre Bordeaux, 3e.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.